Gafe.
Neganya konoto.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 14 février 2025. En République démocratique du Congo, le M23 prend l'aéroport de Bukavu. L'Union africaine appelle à un cessez-le-feu. Guerre au Soudan, l'afflux d'armes doit cesser, exhorte le chef de l'ONU, alors que les Émirats appellent à une pause humanitaire durant le Ramadan. Le Togo organise samedi les premières élections sénatoriales de son histoire.
Les députés et les sénateurs, ensemble, sont ceux qui vont élire le prochain président de la République.
Le journaliste togolais Samuel Naoui nous dira les enjeux de ce scrutin dans la partie magazine. Israël attend la libération de 3 otages à Gaza demain samedi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre aujourd'hui en Allemagne le vice-président et le secrétaire d'État américain. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Co. On commence par le journal. Le M23, allié à des troupes rwandaises, s'est emparé aujourd'hui de l'aéroport de Bukavu, l'une des principales villes de l'est de la RDC, avant une réunion des chefs d'État de l'Union africaine prévue dans la journée en Éthiopie. Alexandrine Olignon.
Selon des sources sécuritaires, le M23 est entré dans la localité de Kavumu qui abrite l'aéroport, situé à une trentaine de kilomètres de Bukavu, chef-lieu provincial. Dans la matinée, des véhicules remplis de militaires congolais ont été aperçus refluant vers Bukavu, selon un journaliste de l'AFP sur place. Dans la ville, les administrations ont renvoyé leur personnel chez eux et plusieurs magasins ont fermé. Le président congolais Félix Tshisekedi cherche à obtenir le soutien de la communauté internationale pour mettre fin à la crise. Il s'est envolé pour l'Allemagne afin d'assister à la conférence de Munich sur la sécurité. Une réunion des chefs d'État africains sur la crise dans l'est de la RDC est prévue dans la journée à Addis Abeba, avant l'ouverture demain samedi du sommet annuel de l'Union africaine. Depuis la récente intensification du conflit, les appels de la communauté internationale à une désescalade se sont multipliés, avec la crainte que la crise ne dégénère en guerre régionale.
Alors que le M23 progresse, le président de la Commission de l'Union africaine a demandé aujourd'hui à ce que les acteurs obligatoirement observent le cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Moussa Faki Mahamat a martelé que les campagnes militaires ne résoudront pas ces problèmes. Le Burundi a, lui, brièvement fermé jeudi sa frontière avec l'est de la RDC en raison de l'afflux de réfugiés congolais fuyant donc les combats entre le M23 et ses alliés rwandais. Le Burundi, qui partage une frontière avec la province du Sud Kivu, a dû refuser l'entrée de plus de 200 Congolais, les forçant à retourner chez eux. Depuis plusieurs semaines, de nombreux Congolais traversent donc la frontière, cherchant refuge au Burundi, notamment à Gatumba, un important couloir économique. Les habitants de la région expriment des préoccupations face à l'intensification du conflit. Et sur le plan sanitaire, des dizaines de patients atteints de Mpox et traités à l'isolement dans l'hôpital de Goma ont pris la fuite à cause de combats dans l'est du pays, a déclaré aujourd'hui l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que 1348 cas de Mpox avaient été confirmés en laboratoire en RDC cette année jusqu'au 2 février, sans qu'aucun décès ne soit pour l'instant à déplorer. Les Émirats arabes unis proposent une pause humanitaire au Soudan durant le Ramadan et promettent 200 millions de dollars d'aide. Parallèlement, l'ONU appelle à stopper l'afflux d'armes dans ce pays, qualifiant la situation de crise humanitaire sans précédent en Afrique. Nani Talani nous en dit plus.
Cette guerre dure depuis trop longtemps, a coûté trop de vies et a provoqué d'immenses souffrances. Ce que les Émirats arabes unis cherchent à faire aux côtés de leurs partenaires est d'appeler à une pause humanitaire durant le Ramadan qui débutera dans 2 semaines, a déclaré ce vendredi en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie la ministre d'État chargée de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Ce pays a été accusé notamment par Khartoum de soutenir les paramilitaires en leur livrant des armes, accusation rejetée par Abu Dhabi et les FSR. Nous espérons qu'avec cette pause humanitaire, nous serons en mesure de fournir de l'aide sans entrave à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les femmes et les enfants qui souffrent de manière sans précédent, a poursuivi Mme Rim Al-Hashimi. Les civils doivent être protégés, l'accès humanitaire sécurisé doit être facilité et le flux d'armes doit cesser, a déclaré pour sa part le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, la Commission de l'Union africaine a appelé toutes les parties à cesser le feu immédiatement et définitivement au Soudan.
En Guinée, la bousculade mortelle dans un stade de football de Nzérékoré le 1er décembre a fait 140 morts, 11 personnes disparues, des blessés graves et des dégâts matériels, selon un rapport indépendant publié ce vendredi. Le bilan officiel des autorités faisait état de 56 morts, mais était largement contesté par des organisations locales. Le rapport dénonce l'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre dans l'enceinte du stade, dans le but ultime de faciliter la sortie du stade des autorités administratives. Présente, le premier ministre guinéen Amadou Ouriba avait incriminé l'arbitrage et la malgouvernance et avait réfuté toute intention de dissimuler le nombre véritable de victimes. En Côte d'Ivoire, la cour d'appel d'Abidjan a confirmé aujourd'hui la condamnation à perpétuité de 4 accusés dans l'attentat djihadiste de Grand Bassam en 2016 pour leur complicité avec les assaillants. L'attaque survenue le 13 mars 2016 avait fait 19 morts. Les accusés étaient reconnus coupables de complicité d'assassinat, de tentative d'assassinat et d'actes terroristes, mais acquittés des charges liées à la détention illégale d'armes. Leur défense annonce un pouvoir en cassation, affirmant qu'ils n'avaient pas de connaissance du projet. Ils n'avaient pas connaissance du projet terroriste. L'attentat avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a annoncé ce vendredi avoir reçu les identités de 3 otages devant être libérés samedi de la bande de Gaza, suivant le calendrier prévu par l'accord de cessez-le-feu. Le point avec Rosine Mounezero.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé que 3 otages allaient être libérés, dont l'un est aux mains de son allié du djihad islamique, lors du 6e échange contre des prisonniers palestiniens. Après une médiation menée par l'Égypte et le Qatar, le Hamas s'était dit prêt jeudi à respecter le calendrier prévu par l'accord de trêve après avoir menacé de bloquer les libérations d'otages en accusant Israël de violation du cessez-le-feu. Durant la première phase de la trêve, 33 otages et 1900 détenus doivent être libérés. Cette deuxième phase doit permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre avant la dernière étape consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. Le président américain Donald Trump avait annoncé la semaine dernière un plan visant à placer Gaza sous contrôle américain pour reconstruire le territoire après avoir expulsé ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie. Un sommet de 5 pays arabes doit se tenir le 20 février à Riyad pour préparer une réponse commune à ce plan avant un autre sommet une semaine plus tard en Égypte.
Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé aujourd'hui que Washington était prêt à faire pression sur la Russie dans de futures discussions sur le règlement de la guerre en Ukraine avant de rencontrer en Allemagne le président Volodymyr Zelensky. Le point avec Eric Manirakiza.
J.D. Vance a aussi assuré aux Européens qu'ils avaient bien sûr leur place à la table d'éventuelles négociations pour mettre fin aux hostilités, mais qu'ils devaient prendre davantage de responsabilités au sein de l'OTAN pour partager le fardeau de la défense du continent. Bien que les États-Unis restent solidaires de l'indépendance de l'Ukraine, une inquiétude croissante plane sur le soutien de Washington à long terme. Dans cette bataille diplomatique, l'Europe inquiète espère plus de responsabilités de la part de l'OTAN. Les Européens, tout en soutenant Kiev, redoutent qu'une pression excessive de Washington n'aboutisse à un compromis défavorable. L'Ukraine, bien que prête à discuter, exige des assurances sur sa souveraineté et son intégrité territoriale, notamment face à une Russie qui ne cesse de revendiquer des territoires annexés. Pour leur part, les pays baltes et nordiques, soucieux de la sécurité européenne, ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, appelant à une paix juste et durable, sans céder aux pressions.
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a souligné aujourd'hui la nécessité de négocier rapidement un accord pour freiner les activités nucléaires de l'Iran, alors que Téhéran continue de produire de l'uranium fortement enrichi proche de la qualité militaire. Le 22 janvier dernier, lors du forum de Davos, Raphaël Grossi avait encore averti que la République islamique appuyait sur l'accélérateur en matière d'enrichissement. Et puis le pape François a été hospitalisé ce vendredi dans un hôpital de Rome pour soigner une bronchite provoquant de fortes difficultés respiratoires. À l'issue de ses audiences du matin, au cours desquelles il a notamment reçu le premier ministre slovaque, le pontife argentin, s'est rendu à l'hôpital Gemelli. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
L'Association internationale de développement a conclu un accord de 145 millions de dollars avec le Burkina Faso pour financer le projet de sécurité de l'eau du pays. Il s'agit notamment de réhabiliter une trentaine de barrages, d'aménager des périmètres irrigués et de restaurer des terres dégradées, entre autres projets. La Société financière internationale va accorder un prêt de 37 millions de dollars aux fabricants de plastique et packaging Moinani pour créer des usines de recyclage au Ghana et au Nigeria. La majeure partie des matières premières proviendra de petites entreprises de collecte du plastique. Ce projet devrait permettre de réaliser des économies sur les importations de certaines résines. Au Gabon, le salon d'orientation qui s'est ouvert mercredi à Libreville se poursuit jusqu'à samedi pour sensibiliser les jeunes sur les métiers dits prioritaires au service du développement en répondant notamment aux besoins du marché du travail. L'objectif du salon est de faciliter la rencontre entre les étudiants et les professionnels d'administration, les entreprises et les responsables d'établissements.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Équipe de France, Zidane, candidat naturel selon Deschamps.
Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, qui a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026, estime que Zinedine Zidane était un bon candidat naturel à sa succession. C'est dans un entretien à l'équipe mise en ligne jeudi soir. Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu, déclare Deschamps, rappelant que c'est sa décision et celle du président de la Fédération française, Philippe Diallo. L'éventuelle décision de Zizou est guettée depuis l'annonce en janvier du départ de Deschamps au terme de son contrat en 2026 après le mondial aux États-Unis et 14 ans à la tête des Bleus. Entraîneur à succès avec notamment trois sacres en Ligue des Champions glanés avec le Real Madrid 2016, 2017 et 2018. Zinedine Zidane est le grandissime favori pour succéder à son ancien capitaine chez les Bleus, champion du monde 1998 et d'Europe en 2000.
En Allemagne, le Bayern prolonge son joyau Jamal Musiala jusqu'à l'été 2030.
Le Bayern Munich a prolongé ce vendredi le contrat de son joyau Jamal Musiala de 4 saisons jusqu'à l'été 2030. Faisant du milieu de terrain offensif allemand de 21 ans le visage du club pour les prochaines années. Les détails de la prolongation du contrat de Jamal Musiala n'ont pas été donnés par le Bayern. Mais la presse allemande évoque une double clause libératoire, 175 millions d'euros 2 ans avant la fin du contrat. 100 millions d'euros un an avant et une hausse considérable du salaire annuel au niveau de Harry Kane autour de 24 à 25 millions d'euros contre 9 millions d'euros actuellement. Le Bayern est l'un des clubs les plus importants du monde. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans le football professionnel et je suis convaincu de pouvoir réaliser de grandes choses avec ce club dans les années à venir, a réagi Jamal Musiala cité dans le communiqué du Bayern.
NBA leader de la Ligue Oklahoma City chute à Minneapolis.
Le Thunder d'Oklahoma City, leader de la Ligue, a subi jeudi sa 10e défaite de la saison NBA sur le parquet des Minnesota Timberwolves 116-101 juste avant la coupure du All-Star Game. Également défait la veille à Dallas, les Warriors ont rebondi immédiatement en allant s'imposer à Houston 105-98 avec 27 points de Stephen Curry, dont 5 paniers longue distance. Mais c'est l'ensemble du collectif de Golden State qui a réagi à l'image de Jimmy Butler, 19 points, 8 rebonds. Grâce à cette victoire, les Warriors basculent dans le vert. À la 10e place à l'ouest, Houston reste 4e. Dallas enchaîne les victoires, 4 lors des 5 dernières rencontres. Après avoir battu Golden State, les Mavericks ont eu la peau du Heat 118-113 et consolident leur 8e place à l'Ouest.
Page de sport VO Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Togo organise ce samedi les premières élections sénatoriales devant marquer l'instauration du nouveau régime parlementaire issu de la révision constitutionnelle d'avril 2024. Pour mieux appréhender les enjeux de ces sénatoriales, Nani Talani a joint à Lomé au Togo le journaliste Samuel Naoui.
Les enjeux de ces élections sont de détail. D'une part, la mise en place du Sénat va permettre aujourd'hui de compléter le processus d'installation des institutions de la nouvelle République, ne pas sans savoir que depuis quelques mois déjà, le Togo a fait l'option d'une 5e République qui est caractérisée notamment par un régime parlementaire. Et le Sénat a un rôle majeur dans cette 5e République. Et donc, ces élections sénatoriales permettront de mettre en place une nouvelle institution qui va compléter donc l'Assemblée nationale qui est bicamérale, la Chambre basse et la Chambre haute. Donc ça, c'est l'un des premiers enjeux de la mise en place du Sénat.
Quels sont d'autres enjeux liés à ces sénatoriales?
Parallèlement à cela, le Sénat, avec le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, ensemble sont ceux qui vont élire le prochain président de la République. Et donc, c'est aussi un enjeu de taille, puisque le prochain président de la République, dans l'histoire du Togo, qui n'aura plus les mêmes prérogatives que le président de la République dans la 4e République, ce président tire justement sa légitimité du Parlement, notamment des sénateurs et des députés. L'un des troisièmes enjeux, c'est que un certain nombre de prérogatives parlementaires sont également dévolues au Sénat. Bien sûr, dans la nouvelle République, le Sénat n'a pas une primauté sur les députés, mais un certain nombre de prérogatives lui sont dévolues. Et donc, lorsque le Sénat est mis en place, il pourra pleinement jouer ce rôle pour parachever donc la mise en place des institutions de la 5e République.
Alors, les enjeux sont vraiment de taille concernant ces sénatoriales. Pourtant, les grands partis d'opposition ont décidé de boycotter ces élections. Comment expliquer leur décision?
D'une certaine manière, c'est logique leur démarche. Elle est logique dans le sens que, vous savez, après l'élection législative de 2023, une bonne partie de l'opposition, notamment les grands partis, ont connu une débâcle électorale. Et justement, la suite de cette débat électoral, un certain nombre d'entre eux, notamment l'Alliance nationale pour le changement, le FDR, les Forces démocratiques pour la République, ont décidé simplement de boycotter le Parlement. Et donc, depuis là, ils ne siègent pas. Et pour eux, en ne siégeant pas, ils expriment en même temps le fait qu'ils ne reconnaissent pas justement la 5e République avec la modification de la Constitution que j'ai tantôt évoquée.
Samuel Naoui, journaliste togolais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'avenir de la présence militaire des États-Unis en Syrie est en question, le président Donald Trump étant confronté aux demandes concurrentes de la Turquie et d'Israël. L'État hébreu souhaite que les États-Unis continuent à soutenir les forces kurdes en Syrie, tandis qu'Ankara s'oppose à cette stratégie. Les détails avec Dorian Jones, le récit est de Rosine Monezero.
«
La force militaire américaine, forte de 2000 hommes, est déployée sur le territoire syrien pour soutenir la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, les FDS, dans sa guerre contre les combattants de l'État islamique. Des milliers de militants de l'État islamique sont détenus dans les prisons des FDS, mais l'avenir de la présence militaire américaine est désormais remis en question. Sinan Sidi, analyste de la Turquie à la Fondation pour la défense des démocraties.
Trump is in a dilemma because
le président américain Donald Trump est dans un dilemme parce qu'il s'est présenté sur cette promesse de l'Amérique d'abord, n'est-ce pas? Il faut se dégager de tout ce qui se passe à l'étranger et ne pas engager de troupes américaines.
Ankara s'oppose fermement au soutien de Washington au FDS qu'elle accuse d'être lié aux insurgés kurdes qui combattent le gouvernement turc. La présence militaire américaine en Syrie a jusqu'à présent, selon les analystes, empêché l'armée turque massée à la frontière syrienne de submerger les forces des FDS, mais le temps est peut-être compté pour les forces dirigées par les Kurdes. Aydin Selsen, ancien diplomate turc de haut rang, est aujourd'hui analyste de politique étrangère pour le portail d'information turc Mediascope.
The only thing that
la seule chose qui protège les FDS jusqu'à aujourd'hui est le parapluie américain. Le temps presse pour les FDS de se ressaisir, d'unir leurs forces à celles de Damas et de les intégrer aux forces armées syriennes.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan entretient des liens étroits avec les nouveaux dirigeants syriens et exige que les FDS se dissolvent sous peine de subir un assaut turc. Le gouvernement israélien exprime son soutien aux FDS compte tenu du risque posé par le groupe État islamique. Galia Lindenstross est spécialiste en politique étrangère à l'Institut d'études de sécurité nationale de Tel Aviv.
Nobody wants to see the resurgence of the Islamic State, and I think in this respect,
personne ne veut voir la résurgence de l'État islamique et je pense qu'à cet égard, les États-Unis comprennent qu'il s'agit d'un petit nombre de soldats. Ils sont efficaces. Alors pourquoi les retirer?
Le ministre israélien des Affaires étrangères a récemment souligné l'importance des Kurdes syriens en tant qu'alliés d'Israël. À nouveau, l'analyste turc Sinan Sidi.
Nous avons vu le gouvernement israélien prendre de plus en plus de mesures pour apporter un soutien plus formel et gouvernemental aux acteurs non étatiques, tels que les Kurdes syriens, parce qu'ils comprennent que jusqu'à présent, ils ont été tout à fait fiables pour contrecarrer certaines des préoccupations majeures en matière de sécurité qui tiennent à cœur aux Israéliens.
Le soutien de la Turquie au Hamas est un facteur de complication important pour l'administration américaine qui évalue les options pour stabiliser la région tout en soutenant les efforts d'Israël pour se protéger de ceux qui veulent le détruire.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Le président Donald Trump a conclu une série d'accords en matière d'énergie de défense avec le premier ministre indien Narendra Modi lors de sa première visite à la Maison Blanche sous le second mandat de M. Trump. Mais les gains ont été contrebalancés par la menace du président américain d'imposer des droits de douane réciproques à ses partenaires commerciaux, ce que l'Inde a cherché à éviter. C'est un sujet d'Anita Powell à la Maison Blanche, le récit est de Lionel Gaïma.
Le premier ministre indien Narendra Modi a été chaleureusement accueilli avec une pile d'accords dans le domaine de la défense et de l'énergie. Des accords qui ont été éclipsés par la menace du président Donald Trump le même jour d'imposer des tarifs douaniers réciproques aux partenaires commerciaux des États-Unis. Le chef de l'exécutif américain a annoncé une série d'accords sur l'énergie, l'espace et la défense, y compris notamment l'entrée possible de l'Inde dans le programme F-35, actuellement limité à un groupe d'élite d'alliés proches.
L'accord entre les États-Unis et l'Inde pour le 21e siècle est une initiative historique qui renforcera tous les aspects de notre partenariat et de notre amitié. Dès cette année, nous augmenterons les ventes militaires à l'Inde de plusieurs milliards de dollars. Nous ouvrons aussi la voie à la fourniture à l'Inde d'avions de combat furtifs F-35.
Puis, le même jour, il a ordonné le lancement d'un examen en vue de l'application des droits de douane réciproques. Trump, apparaissant aux côtés de Modi, a expliqué qu'il s'agissait d'un effort pour réduire un déficit commercial de longue date avec l'Inde. Modi a plaisanté sur le fait qu'il avait été inspiré par Trump pour inventer un nouveau slogan basé sur « Make America Great Again »,« Make India Great Again ». Il a insisté sur la coopération dans le domaine de l'énergie, en particulier sur les petits réacteurs nucléaires modulaires et sur le contrat de défense.
Quand l'Amérique et l'Inde travaillent ensemble, c'est là que MAGA plus MIGA deviennent MEGA.
MAGA plus MIGA.
C'est un méga partenariat pour la prospérité.
Les analystes estiment que l'Inde joue un rôle clé face aux ambitions croissantes de la Chine et Modi a récemment pris des mesures pour renforcer les défenses de l'Inde. Tamanna Salkuddin, directrice de programme pour l'Asie du Sud à l'Institut américain de la paix.
L'Inde joue un rôle important aux côtés du Japon, de l'Australie et des États-Unis dans la réflexion sur la construction de partenaires et d'alliés dans la région Indo-Pacifique. C'est un point sur lequel la première administration Trump s'est vraiment concentrée.
Les observateurs de l'Inde estiment que si les enjeux sont importants pour les deux parties, New Delhi a plus à perdre. Richard Russell travaille au Centre d'études stratégiques internationales.
Alors que le président Trump lance une sorte de guerre commerciale contre le monde, l'Inde a des enjeux plus importants que beaucoup d'autres pays et elle doit s'assurer que les relations restent stables. Ils veulent parler des politiques qu'ils peuvent résoudre et essayer de s'assurer que les choses restent sur un pied d'égalité parce que cette relation est importante pour nous et elle est vitale pour l'Inde.
Modi, enfin opérateur politique qui dirige la plus grande démocratie du monde depuis une décennie, en est clairement conscient puisqu'il a pris le temps de rencontrer récemment non seulement le vice-président américain en France, mais aussi le milliardaire Elon Musk qui joue un rôle actif dans la refonte des États-Unis.
Nous sommes le 14 février, c'est une occasion spéciale dans beaucoup de pays pour célébrer l'amour et l'amitié, pour mieux comprendre la journée de la Saint-Valentin. Eric Manirakiza a joué en France, Marina Cabonnier, d'origine burundaise, qui partage ses perspectives sur cette fête.
Alors, je dirais que j'ai fêté la Saint-Valentin, non pas parce que j'étais convaincue que cette date-là, il faut absolument faire quelque chose, mais plus par... pour imiter les autres, et puis ça a toujours été une fête très commerciale, donc c'est une façon de marquer le coup, de faire comme tout le monde, mais je l'ai fêté hein, sûrement, hein. Même des fois ça peut me prendre et me dire voilà, c'est l'occasion d'aller se faire un bon petit resto, se faire offrir des jolies fleurs ou un parfum, mais ça dépend des moments.
Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez faite ou qu'on ait faite pour vous?
La chose la plus romantique pour moi, je dirais que c'était un massage à deux. Aller dans un spa à deux. Et voilà, c'est le cadeau que j'avais trouvé génial.
La Saint-Valentin est-elle un jour de fête réservé au couple ou est-elle aussi importante pour les amis?
Moi, je pense que c'est une fête qui est peut-être réservée pour repenser à l'amour. On peut s'aimer aussi soi-même, hein, même si, bon, même pour des personnes solo. Je pense que si à cette occasion, ça permet de se dire voilà, aujourd'hui, je vais m'occuper de moi, je vais me faire plaisir. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un d'autre. On peut s'aimer soi-même et s'accorder ce petit instant aussi.
Et quel type de geste amoureux vous semble le plus authentique pour célébrer cette journée?
Je dirais les gros câlins de tendresse.
Et quelle est la chanson d'amour préférez-vous écouter le 14 février?
Love me tender. Love me tender. Voilà, pour moi, c'est la chanson d'amour. Bah, d'ailleurs, je vais l'écouter aujourd'hui.
Et en français, elle signifie quoi?
Aime-moi tendrement, je pense.
Est-ce que vous croyez qu'il existe des attentes trop élevées pour cette journée?
Je pense que oui, ça dépend aussi des personnalités ou à quel stade vous êtes dans l'amour, dans le couple. Il peut y avoir des attentes énormes, surtout pour un jeune couple ou peut-être un couple qui traverse, je sais pas comment expliquer, il y a des attentes absolument pour certains. Si on entend que telle personne, son mari, avait prévu ça et ça et ça pour la Saint-Valentin, ça peut engendrer chez la femme ou chez l'homme une sorte de jalousie ou d'amertume et de se dire, voilà, moi, s'il n'a rien préparé, c'est qu'il ne m'aime pas.
Et que pensez-vous des traditions comme l'échange de cartes ou autres?
Ben, je pense que c'est beaucoup plus authentique pour moi. Si tu prends le temps d'écrire quelque chose à mettre sur papier, c'est vraiment le plus authentique pour exprimer ton amour à l'autre.
Marina Kabouni est d'origine burundaise, jointe en France. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bonne fête de Saint-Valentin.